À table.
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
Un mardi sur deux à 11h,
un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Bartas,
107 FM.
À table.
Bonjour à toutes et tous, mangeuses et mangeurs du Sud-Lozère et d'ailleurs. Bienvenue dans le premier épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT, le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère. L'objectif du PAT, relocaliser l'agriculture et l'alimentation. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à ces thématiques et qui souhaitent s'impliquer pour installer des agriculteurs et agricultrices, développer les circuits courts et de proximité, mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, instaurer l'éducation au goût à l'école ou encore favoriser l'autoproduction. Au programme de cette première émission, un reportage sur la rencontre organisée au collège de Florac entre les élèves et les producteurs-productrices. Lors d'un repas 100% local, les collégiens et collégiennes ont pu échanger avec celles et ceux qui produisent les aliments qui composent leur assiette. Nous échangerons ensuite avec Louise Donizot, qui est présente avec nous. Salut Louise.
Salut Juliette.
Tu es chargée de mission agriculture au PETR Sud-Lozère et tu travailles justement sur l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux. Qu'est-ce que le PETR et pourquoi cette collectivité s'implique sur la thématique de l'alimentation? C'est Daniel Barbario qui est aussi présent en studio. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette et bonjour Louise.
Président au PETR Sud-Lozère, tu répondras aux questions qu'on vient de se poser. Pas de chronique jardin pour cette première émission, mais ça va venir. Et on salue Ben à la technique. Chaud patate.
Sur Radio Bartas.
107 FM. De la vache folle au lait infantile contaminé à la salmonelle, des lasagnes à la viande de cheval aux œufs contenant du fipronil et suite à de nombreux rappels produits, qu'il s'agisse de pizza surgelée ou d'œufs en chocolat, la méfiance envers les industriels de l'agroalimentaire croît. Pour retrouver confiance en ce que nous avons dans notre assiette, d'autres modes d'approvisionnement sont possibles et permettent d'échanger directement avec les producteurs et productrices, d'établir un lien de confiance avec celles et ceux qui nous nourrissent. C'est aussi l'objectif de la rencontre organisée au collège de Florac entre les élèves et les producteurs-productrices, à laquelle nous nous sommes rendus.
Frédéric Martinez, je suis chef de cuisine au collège de Florac depuis 15 ans, cuisinier depuis 32 ans.
Ton rôle à la cantine de Florac, outre la préparation des repas, ça consiste en quoi ?
Alors, pour mon travail sur ce qui est de Florac, je m'occupe de l'élaboration des menus, des commandes, de la réception des marchandises, de la production et puis de la gestion de toute la comptabilité de la partie cuisine, et ainsi que aussi agri-local, et bien sûr tout ce qui est en lien avec la loi Egalim.
Donc gros travail. Là aujourd'hui, tu as organisé une rencontre entre les producteurs et les élèves du collège. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu l'idée d'organiser ça, comment tu l'as organisé?
Alors il y avait quelque temps que ça me trottait dans la tête. De faire cette rencontre-là entre les élèves et les producteurs, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, même les parents ne sont pas au courant de ce qu'on fait en cuisine, des produits frais, des produits locaux. Et donc, je voulais qu'il y ait un échange entre les producteurs, parce que bon, quand on a une, par exemple, comme aujourd'hui, un aligot saucisse, il y a quelqu'un qui fait la saucisse, il y a quelqu'un qui élève le porc, qui s'occupe de la tomme, qui plante les légumes. Et donc, les regrouper aujourd'hui devant les élèves pour qu'ils puissent communiquer avec eux et voir qu'il y a derrière un produit, il y a quelqu'un, il y a un agriculteur qui produit.
Cette rencontre, elle s'inscrit dans une démarche plus globale que tu mets en place à la cantine depuis tout le reste de l'année. Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères l'approvisionnement local, le lien avec les producteurs?
Alors, ça se fait petit à petit. Ça fait maintenant 6-7 ans là, qu'on est vraiment parti dans cette direction de prendre du local. Et donc, il faut y aller étape par étape. Une année, on prend un produit. Sur de l'épicerie sèche, ça a été vraiment le début des produits bio, par exemple. Et puis après, j'ai pris des producteurs, le veau bio a été un des premiers produits que j'ai acheté. Direct producteur, producteur cuisine, direct. Et après, se rajoute petit à petit. Cette année, on est passé, déjà l'année dernière, on est déjà passé à 100% de produits carnés de Lozère. Donc le porc, le veau, le bœuf, la volaille, et j'en passe, charcuterie, etc. pour prendre un maximum de produits de Lozère. Et voilà, parce que bon, il y a certains produits qu'on aura, nous aurons du mal à être approvisionnés, notamment le maraîchage. Mais bon, après, on a tout le reste en Lozère, on a plein de choses. Tous les fromages, cette année, ça a été surtout les fromages qui ont été mis à l'honneur.
Au niveau de la loi Egalim, donc, qui impose voilà, 50% de produits de qualité et durable, dont 20% de bio dans la restauration collective, quel est ton point de vue par rapport à la loi, à la manière de mettre en place ce qu'elle impose, toi, dans ta cantine?
Alors, je trouve que c'est une loi extraordinaire. Je suis vraiment très content qu'ils aient mis ça en place avec la loi Egalim 1, puis la loi Egalim 2. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de bien pour nos enfants. Parce que tout simplement, on a un produit local, mais on a surtout un produit brut qu'il va falloir transformer. Et donc, automatiquement, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très bien. Ça permet à ceux qui ont la volonté de le faire de pouvoir entraîner derrière eux des équipes et des budgets. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 bien qu'ils ont fait cette loi Egalim.
Les objectifs, vous arrivez à les atteindre, vous, à la cantine de Florac, du coup?
Oui, les objectifs sont atteints à la cantine. Voire, l'année dernière, c'était un petit peu dépassé en bio. Mais bon, c'est atteint. On est dans la loi, un petit peu plus, mais bon, c'est bien.
Dernière question et pas des moindres. Est-ce que tu peux nous présenter le menu du jour, s'il te plaît?
Alors, aujourd'hui, nous avons fait un méli-mélo de légumes croquants avec donc les légumes venant des herbes folles du Pompidou, avec un petit œuf dur de la maison Delcro, petite vinaigrette bio à l'huile d'olive qui vient de Biojour, de Florac. Après, nous avons suivi avec une saucisse du Mont Lozère, de la pintade qui vient aussi de juste à côté du Mont Lozère, un aligot avec la tomme fraîche de la ferme du Teil, et les pommes de terre des herbes folles du Pompidou. Nous avons fait aussi une truffade avec les mêmes produits. Et un riz bio de Camargue, dont j'ai une productrice qui me produit un riz extraordinaire. Après, nous avons mis au choix un yaourt ou une tomme de la vacherie en abondance du Pont de Montvert. Et puis, comme dessert, nous avons mis une pomme bio du Lot, pomme au four, avec des petites amandes et des petites noix bio aussi. Et puis pour accompagner tout ça, du pain bio, semi-complet, du pain blanc, plusieurs variétés de pain. Voilà.
De quel producteur du coup?
Alors, ça vient du Fournil Sévenol, voilà, qui est au collet.
Et c'était délicieux. Merci beaucoup.
Bonjour, alors je m'appelle Marie-Paul Guigon. Nous sommes en GAEC avec mon mari et mon fils à Saint-Germain-du-Teil. Notre nom commercial, c'est la ferme du Teil. Nous produisons du fromage Layol fermier AOP. Voilà, nous sommes sur le territoire de l'Aubrac, hein, en fait. La plus grande partie de notre lait est commercialisée à la coopérative Jeune Montagne à Layol et une partie est transformée sur place à la ferme. Voilà. On travaille avec certains collèges dans le cadre d'agri local et ensuite notre fromage est surtout vendu à la ferme sur place, quoi.
En vente directe. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que les producteurs viennent rencontrer les consommateurs et ici donc les collégiens et les collégiennes du collège de Florac. Est-ce que toi ça a une importance particulière de rencontrer les personnes qui vont manger le fromage que vous produisez?
Oui, bien sûr. On le fait toute l'année avec le consommateur lambda, j'allais dire, les gens de passage, les gens de Lozère et autres. Et là, ensuite, c'est nos futurs vrais consommateurs. Hein, donc, c'est important de leur parler de ce qu'on fait, etc. Quoi. Leur présenter peut-être un peu le cahier des charges, puisqu'on a un cahier des charges très rigoureux pour le Layol, hein, comme c'est un fromage au lait cru.
Et vous, au niveau distribution, commercialisation, vous êtes souvent en lien avec la restauration collective. Vous vendez souvent votre fromage au collège de Florac. Est-ce que c'est la première fois?
Donc on vend à peu près 5 fois par an, on amène 5 fois par an à peu près du fromage ici au collège de Florac. Après, on a le collège de Saint-Chély-d'Apcher aussi avec lequel on travaille un peu.
Ben, merci beaucoup, en tout cas le fromage était délicieux. Salut Camille, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton activité, où est-ce que tu te situes
Ouais. Moi je suis Camille, je produis des légumes au Pompidou, donc à 25 minutes de Florac, et en petite surface, du coup maraîchage diversifié sur sol vivant.
Ça fait longtemps que tu es installée sur ton exploitation ?
Non, c'est que la deuxième saison, c'est tout neuf et c'est aussi tout nouveau pour moi d'habiter en Lozère.
Au niveau production, quels sont les légumes que tu produis toute l'année
Je produis des légumes de mi-juin à fin novembre et un peu tout ce que tu as envie de trouver dans ton assiette à cette période-là, des produits de saison, quoi, des oignons, des radis, des choux, des tomates, des aubergines, des poivrons, enfin vraiment de tout, quoi.
Super. Et tes moyens de distribution ?
Ben pour l'instant, je livre pas mal à Florac, alors à Biojour, à l'Embuscaf et la Madeleine. Et là, je suis en train de développer aussi le partenariat avec le Supagro et le collège de Florac, quoi.
Alors du coup, aujourd'hui, comme on l'expliquait, c'est une rencontre entre les producteurs et les élèves du collège. Quelle importance ça a pour toi de faire du lien avec les personnes qui vont manger les produits que tu leur vends et que tu mets du cœur à produire ?
Pour montrer justement qu'il y a un visage derrière les légumes qu'ils mangent à la cantine et que c'est pas que ça vient pas du supermarché et ils connaissent pas les producteurs. Là ils peuvent me croiser dans les rues à Florac et ils savent qui c'est et ça change tout, je crois, de manger un produit quand on connaît le producteur ou la productrice.
C'est vrai. Ben, merci beaucoup. Coucou Lana et Héloïse, merci de m'accueillir à votre table. Est-ce que vous passez un bon moment ? Est-ce que le repas vous plaît ?
Oui, beaucoup. C'est super bon.
Est-ce que vous trouvez que c'est important de rencontrer les personnes qui produisent la viande, les légumes que vous avez dans votre assiette ?
Ben oui, un peu quand même. Ben oui, parce que comme ça, on sait ce qu'on mange et si on ne sait pas, ben on se... T'as pas trop envie de manger des fois.
Pour toi, ouais, c'est de manger, de connaître le producteur et de savoir que ça vient de Lozère ou de proche, ça te donne envie de plus le manger ?
Oui. Oui, parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je me dis pas s'il y a des produits chimiques ou des trucs comme ça. Et là, je sais qu'il y en a pas dans cette viande.
T'as plus confiance, du coup ?
Oui, c'est ça.
Il y a un produit que vous avez préféré, un plat qui vous a le plus plu aujourd'hui ?
Oui, le riz et la saucisse.
Moi, ce que j'ai préféré, c'était la truffade.
Bah, merci les filles et bonne fin de repas. Et donc maintenant, je suis avec Monsieur Renaud, donc enseignant en sciences de la vie et de la terre. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment l'équipe pédagogique et comment elle s'approprie en fait ce sujet de l'alimentation locale, et pour faire écho, voilà, à ce type de journée des rencontres avec les producteurs et les collégiens.
Oui, bonjour. Alors en SVT déjà dans le cadre des cours, on va travailler sur l'alimentation principalement en cinquième, où on va voir du coup comment on se nourrit et comment on absorbe, enfin on digère et on absorbe les nutriments. Voilà, et donc à cette occasion on travaille aussi sur l'équilibre alimentaire. Il y a un travail qui est fait aussi en SVT plutôt en quatrième et en troisième sur l'impact des activités humaines sur l'environnement. Et on travaille aussi sur du coup tout ce qui va être en lien avec le développement durable, mais on n'aborde pas directement forcément l'alimentation, mais on les sensibilise en tout cas du coup à la problématique des ressources de la biodiversité et voilà, du changement climatique. Après, cette année, il y a eu un travail un peu particulier en 6e avec l'intervention du CD48. Il y a des élèves de 6e ont profité d'interventions sur les mécanismes du goût, sur l'alimentation saine et sur l'anti-gaspillage. Voilà. Donc après, à cette occasion d'ailleurs aussi, on va faire une sortie chez l'agriculteur. Du coup, on va aller voir des agriculteurs qui sont à côté. Là, on va avec les 6e de Florac à La Rochette, vendredi. Là. Et là, à cette occasion, on verra pourquoi c'est intéressant aussi de consommer local, pour éviter les transports. Après, il y a aussi pour les éco-délégués, il y a dans tous les collèges de France maintenant des éco-délégués. Donc c'est moi normalement qui suis en charge en tant que développement durable de gérer ces éco-délégués. Et ça fait plusieurs années qu'on voulait travailler sur le thème de l'alimentation. Et donc il y a quand même une partie des éco-délégués qui sont favorables du coup à ce travail sur l'alimentation. Ça reste encore à être voté, mais on va essayer d'avoir un label établissement en démarche de développement durable, le label E3D. Et cette année, on va faire tout un travail avec ces éco-délégués, qui sont un par classe au moins, sur ce thème. Et donc on va essayer d'améliorer au sein de l'établissement la qualité de l'alimentation, le fait que ça vienne de producteurs locaux, en faisant une espèce de lobbying auprès de tous ceux qui sont responsables de ce que l'on mange ici. Voilà, donc ça va s'inscrire aussi dans le programme agri-local, dans cette sortie faite pour les 6e. Voilà, donc on va faire ce travail normalement cette année, et on l'avait déjà fait il y a quelques années, mais on va le prolonger. Et après, bon, là, ça vient des élèves, hein, ce qui va être fait, hein, c'est une démarche de projet, donc les élèves sont quand même, ceux qui sont éco-délégués, généralement, sont forts de propositions. Et ici, c'est vrai que dans cet établissement, on a quand même pas mal d'élèves qui sont enfants de producteurs et pour qui la problématique d'alimentation est importante. Voire d'autres élèves qui sont simplement sensibilisés à une alimentation saine et durable. Voilà, et après, je sais aussi qu'en histoire-géographie, et principalement en géographie, il y a un thème en cinquième qui concerne la ressource alimentaire. Donc c'est un thème qui est partagé un petit peu avec les SVT, même si nous, c'est toutes les ressources naturelles. Donc ils travaillent spécifiquement sur la ressource alimentaire. Et dans ce cadre, sur la question comment nourrir l'humanité, les circuits courts notamment, et l'alimentation locale, font partie des solutions pour permettre une alimentation saine pour tous dans le monde entier.
Bah, merci pour ces précisions, et on voit que le sujet de l'alimentation, il sort aussi des murs de la cantine, et on en parle aussi dans les salles de classe.
Chaud patate
sur Radio Bartas
107 FM.
Resalut Louise, on vient d'écouter le reportage réalisé lors de la rencontre entre les élèves et les producteurs-productrices qui a eu lieu au Collège de Florac le 10 octobre dernier. Cette rencontre, elle fait écho à ta mission au sein du PETR Sud-Lozère. Est-ce que tu peux nous la présenter et en profiter pour te présenter aussi rapidement ?
Alors moi, je travaille au PETR depuis mars 2021 en tant que chargée de mission agriculture. Avant, je travaillais dans une asso franco-colombienne en Colombie qui faisait des paniers avec des producteurs, des visites de fermes. Donc voilà, j'étais déjà dans ce domaine, mais c'est nouveau pour moi de travailler dans une collectivité territoriale. Et donc là, mes missions au sein du PETR, c'est de travailler sur les circuits courts et de proximité dans la restauration collective. D'aller rencontrer les producteurs d'une part, les cuisiniers de la restauration collective d'autre part, de faire le lien en fait entre l'offre et la demande, d'essayer d'adapter au mieux des deux côtés, d'accompagner les établissements, donc que ça peut être des cantines scolaires, EHPAD, foyers de vie, accompagner les collectivités, les mairies, travailler notamment aussi avec le département qui s'occupe des collèges et de la plateforme agri-locale, pour faire en sorte qu'il y ait plus de produits locaux et durables dans la restauration collective. Donc je vais aussi par exemple informer sur des appels à projets pour accompagner certains établissements pour qu'ils puissent avoir des formations, de travailler sur le gaspillage alimentaire. On va travailler aussi par exemple sur la mutualisation des commandes au sein d'établissements, enfin entre plusieurs établissements d'un même secteur pour faire face aux freins de la logistique notamment et de l'inflation aussi.
Au niveau des cantines du Sud-Lozère, est-ce qu'il y a une bonne dynamique justement sur ces sujets-là, de l'approvisionnement local, et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce qui se fait ?
Alors c'est très variable selon les établissements, mais il y a un certain nombre d'établissements qui sont très moteurs sur le sujet. On a la chance dans le Sud-Lozère, c'est que la majorité des cantines, elles sont encore sur place. Il n'y a pas de livraison d'établissements qui viennent de loin. Donc voilà. Et après, il y a aussi de la liaison chaude, donc c'est-à-dire par exemple une école qui va produire pour une autre école qui se trouve à 5 ou 10 km. Donc sur le fait maison, on est quand même plutôt bien en Sud-Lozère. Et après, voilà, il y a des établissements qui vont être moteurs, comme on l'a pu le voir dans le reportage, le Collège de Flora qui travaille notamment avec des producteurs locaux et qui va organiser des événements comme cette rencontre entre producteurs et élèves. Il y a une école qui est Nature et Progrès à Ventalon en Cévennes. Il y a d'autres établissements voilà, qui vont y aller. Alors certains pas à pas, par exemple la Masse Les Bancelles à Florac qui a supprimé les gâteaux emballés individuellement et qui va faire des gâteaux faits maison. Voilà. La majorité des écoles aussi et des collèges vont faire des pesées pour travailler sur le gaspillage alimentaire. Voilà. Il y a des avancées.
Oui, ok. Concernant la loi Egalim qui a été rapidement évoquée dans le reportage, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit et éventuellement quelles difficultés peuvent être rencontrées par les cuisiniers et les cuisinières pour mettre en application la loi, en particulier sur le sud de Lozère?
Alors la loi Egalim, la première, elle a été promulguée en 2018. Et donc après, il y a eu la loi Egalim 2 dont a parlé Frédéric dans le reportage qui est depuis 2021. Et donc cette loi, elle demande en fait à tous les établissements de restauration collective d'avoir 50% de produits durables dans leurs établissements, dont à minima 20% de bio. Donc produits durables, c'est tous les produits labellisés, hein, donc les produits bio, mais aussi les produits fermiers, les produits AOP, label rouge et compagnie. La loi aussi, elle stipule d'avoir un menu végétarien sans viande par semaine dans les établissements scolaires et de travailler sur le gaspillage alimentaire. Et donc moi, mon travail en plus de cette loi, ça va être qu'il y ait plus de produits locaux aussi dans les assiettes des convives. Les freins pour cette loi, pour la mise en œuvre, c'est que c'est quand même pas évident pour des cuisiniers de passer de quelques grossistes à une multiplicité de producteurs locaux. Donc par exemple, avant on avait l'habitude de travailler avec trois grossistes, et là tout à coup on a 15-20 personnes à contacter parce que lui, bah voilà, il fait que des pâtes, lui il va faire la volaille, lui il va faire ou elle va faire le veau, l'autre le cochon, enfin le porc. Donc ça demande pas mal de temps de commande en plus pour les cuisiniers. Il y a un certain manque selon les établissements de formation, voilà, pour faire plus de fait maison, arriver à rester dans son budget aussi en incluant des nouveaux produits. Donc après, il y a plein de leviers pour ça. Le menu végétarien en est un, mais aussi le gaspillage alimentaire. Et donc, voilà, il y a quand même pas mal de manque de formation sur le menu végétarien et des alternatives à la viande. Ça a été évoqué que voilà, le département travaille pas mal là-dessus. Il y a eu des formations proposées. Un autre frein, c'est quand même l'inflation, hein, et le coût des denrées qui a pas mal augmenté. Mais pour ça, en fait, il y a quand même un avantage à travailler avec les produits locaux qui augmentent beaucoup moins et qui sont plus stables dans les prix. Et un frein aussi, c'est la logistique. Voilà, amener des produits à des établissements qui sont éloignés dans certaines communes, faire une heure de route pour aller livrer 10 kilos de pommes de terre et 5 kilos de carottes, ça ne vaut pas le coup pour n'importe qui. Donc voilà, donc moi je vais accompagner là-dessus et essayer de travailler sur la mutualisation, adapter l'offre et la demande et travailler au plus près voilà, avec les producteurs et les cuisiniers.
Ouais, donc il y a de belles ambitions, mais les moyens pour la mettre en application, la loi, sont pas forcément évidents dans tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu t'occupes au sein du PETR et dont tu voudrais nous parler ?
Oui, moi je travaille aussi sur le foncier agricole. Alors depuis peu, j'ai une collègue, Floriane, qui vient d'arriver et qui va reprendre ma relève sur ce sujet. Mais au cours des deux dernières années, j'ai pu travailler notamment avec les communes pour essayer d'installer en fait des agriculteurs. Le constat de base, c'était qu'il n'y avait pas assez, par exemple, de fruits et légumes sur le sud de Lozère pour fournir la restauration collective. Voilà, les maraîchers en place avaient déjà des débouchés et ils n'avaient pas besoin de plus. Donc voilà, il fallait installer des maraîchers pour pouvoir approvisionner la restauration collective. Donc il y a une maraîchère qui a été installée par ce biais à Saint-Étienne-Vallée-Française et un autre qui va s'installer cet hiver à Florac. Et donc, par exemple, aussi sur le foncier, je travaille sur des plutôt projets collectifs des associations foncières. Par exemple, avec l'association foncière agricole des Coteaux des Gorges du Tarn, qui a permis l'installation des deux vignerons à Espagna qui a 20 ans. Et donc, voilà, on va parler de ça. Et il y a... le 4 novembre, la fête de la vigne et des vergers, où on va parler un petit peu de ce qu'on fait, nous, à ce sujet. Et donc, si vous voulez venir nous parler de votre foncier et des possibilités de mise à disposition, quels sont les bénéfices pour le territoire, n'hésitez pas à venir nous rencontrer le 4 novembre. Et un autre sujet que j'accompagne également, c'est l'abattoir mobile Auvin-Caprin du sud de Lozère. Voilà, il y a des éleveurs qui ont un projet... d'abattoirs plus respectueux de l'animal, aussi de l'éleveur et de l'environnement en Sud-Lozère. Donc voilà, il y a une douze quinzaine d'éleveurs Auvin-Caprin qui ont ce projet.
Ah oui, ça fait, pardon de prendre la parole, mais ça fait 5 ans que je travaille à la radio, un peu plus. 5 ans que j'en entends parler de ce projet. Concrètement, on en est où? Parce que je sais qu'il y a une structure qui avait été récupérée, un camion. Voilà. Concrètement, on en est où dans ce projet? Je suis contente d'avoir la radio. Pardon de prendre la parole dans cette émission, mais ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. Donc concrètement, on en est où?
Alors, depuis un an et demi, on a réussi à... Enfin, le PETR Sud-Lozère porte une étude technico-économique de faisabilité de cet outil. Donc ça nous a permis de travailler avec des architectes, avec une éthologue, avec le CERF France pour travailler sur l'étude économique. Et avec un consultant qui est expert en abattage alternatif. Donc on a pu avancer sur pas mal de choses. Les éleveurs ont en effet acquis un camion d'abattage qui est actuellement localisé à Sainte-Croix, à côté de l'atelier de découpe. Et donc il faut faire quand même des adaptations. Et le projet avance bien. Là justement, lundi, mardi, on était dans la Drôme pour visiter un abattoir paysan. Donc on est parti avec 7 éleveurs, 2 élus... Betty du CIVAM et moi qui accompagnons le groupe. Donc là, les éleveurs, ils sont à bloc, ils sont hyper motivés. Donc voilà, on est en train de préparer la suite et à discuter.
On va passer à l'entracte musical. Est-ce que tu peux nous donner ton choix, s'il te plaît?
Oui, moi je voulais écouter une chanson qui s'appelle Pescao Envenenao de Shokip Town, qui parle d'un poisson empoisonné que les habitants ne peuvent plus manger à cause de l'exploitation minière qui a à côté des rivières. Et donc l'eau est aussi contaminée. Voilà, c'est une chanson colombienne que j'apprécie beaucoup.
Toma un consejo para la paternidad. Métete aquí con la energía y no vuelvas más. Oye.
Merci pour la découverte musicale. Dernière question un peu plus légère. Est-ce que tu as un aliment de saison préféré et une manière de le cuisiner ou de le manger à nous proposer ?
Sans hésiter, la noix actuellement et le gâteau à la noix que ma mère m'a toujours préparé et que j'apprécie énormément. Que je sais faire évidemment maintenant aussi.
On l'attend au bureau alors.
Avec plaisir.
Pour un de ces petits déj. Et est-ce que tu aurais une recommandation, un livre, un film, une pièce de théâtre en lien avec l'agriculture et l'alimentation durable à nous proposer ?
J'ai vu cet été un spectacle de théâtre marionnette dans un festival d'art de rue qui s'appelle Rayon Boucherie de Laïs Godefroy du théâtre de l'Escabeau. Et donc c'est sur l'élevage industriel intensif. VS contre, à contrario d'un élevage qui, dont on voudrait qu'il soit plus présent sur notre territoire, extensif, local, raisonné. Après, on a de la chance en Sud-Lozère là-dessus. Et aussi, en parallèle, il y a une compagnie qui s'appelle Gérard Gérard qui est actuellement en résidence en Lozère et qui fait un spectacle carné justement sur. Sur la viande et voilà, tout ce que ça évoque. Et voilà, vous pouvez regarder, ils vont jouer deux fois via les scènes croisées.
Merci pour les recommandations. Et nous sommes aussi en studio avec Daniel Barberio, donc, adjoint sur la commune de Vialas et président du PETR Sud-Lozère. Donc merci d'être présent pour le premier épisode de Chaud Patate. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est le PETR, comment il fonctionne, quel est son rôle et sur quelle thématique il travaille ?
Très bien. D'abord, je vais remercier Radio Bartas donc, pour son accueil et pour la possibilité qu'il me donne donc, de présenter notre structure qui, je l'avoue, souffre encore un peu de notoriété sur l'ensemble du territoire. Et donc, je me félicite aussi des relations qu'on entretient avec Radio Bartas et qu'on va encore plus développer, notamment au service de la charte forestière et maintenant du PAT. Voilà. Alors le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural Sud-Lozère, est un syndicat mixte administré par un conseil syndical, lequel est composé de 6 représentants de chaque communauté de communes. Il a été créé en 2018 et à sa tête un bureau avec un président et 4 vice-présidents. Alors il regroupe donc le territoire des communautés de communes Gorges-Causses-Cévennes, soit 17 communes, et des Cévennes au Mont-Lozère, soit 19 communes, pour un total donc de 12 000 habitants sur 1 500 km², soit à peine 8 habitants au mètre carré. Alors, il est dirigé par Sandrine Marmet. Il emploie 9 agents territoriaux qui travaillent donc sur le projet de territoire commun aux 2 OPCI adhérentes. Il est également le périmètre de contractualisation vis-à-vis de l'État et de la région avec le contrat régional et le contrat de ruralité. Pour le compte des 2 communautés de communes, le PETR Sud-Lozère gère également des missions spécifiques. Donc on a l'accueil de nouvelles populations et des porteurs de projets. On a l'animation du programme LEADER qui correspond au fonds européen à destination des projets locaux. Titre d'information, la première programmation qui s'est terminée fin 2022 a fait l'objet de plus de 3 400 000 euros de crédits redistribués sur notre territoire. Et là, on travaille sur la nouvelle programmation 2023-2027. Après, on a l'animation de la charte forestière du territoire. Donc là, la politique forestière du territoire, elle est construite par les élus et les structures locales volontaires. Donc là, il s'agit de choisir la stratégie sur la forêt et des actions pour la mettre en œuvre. Un exemple d'action, au mois de mai, la promotion d'une nouvelle microfilière autour de la résine du pin maritime en Cévennes et la fête de la forêt qui s'était déroulée à Bar des Cévennes. Après, on a une mission sur le développement d'actions en faveur de la mobilité. Donc, dans les dossiers sur la mobilité, on a la ligne Hispaniac-Floracales qu'on essaie de pérenniser et de développer avec la région. On a le transport à la demande. On a le covoiturage, où là, on va expérimenter une nouvelle application. Et après, le développement de la pratique du vélo, avec la mise à disposition de vélos à assistance électrique et la mobilité douce. Voilà. Et après, on a Donc là, c'est une nouvelle mission. Donc c'est l'amélioration de l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective. Donc là, je rappelle qu'on a été lauréat d'un appel à projet il y a quelques mois, sachant qu'il n'y a eu que deux lauréats sur l'Occitanie. Donc c'est une fierté pour le PETR Sud-Lozère. Et je remercie encore Louise pour tout le travail, puisque c'est elle qui a préparé le dossier. Et donc, elle y est pour quelque chose. Voilà. Et après, un rappel important... Les entreprises, les associations, les collectivités ou les simples particuliers peuvent bénéficier des compétences et des conseils du pôle donc du PETR. Donc n'hésitez pas. En trois lignes, donc, le rapport d'activité 2022, puisque 2023 n'est pas arrêté, c'est le programme LEADER, c'est plus de 100 projets qui ont été accompagnés par l'équipe pour plus de 3,4 millions de capitaux. Le contrat régional d'Occitanie, c'est 68 dossiers pour 3,5 millions. Et le contrat de ruralité, de relance et de transition écologique, c'est 25 projets pour plus de 2 millions d'euros. Alors nos ambitions avec l'équipe, le bureau, le conseil syndical, les élus, c'est de continuer à défendre et à promouvoir notre territoire en mettant en avant ses spécificités, sa diversité, son patrimoine et son histoire. Et c'est surtout, et c'est pas la chose la plus simple, c'est mobiliser l'ensemble des élus, les acteurs économiques, les associations, les citoyens, pour qu'ensemble nous soyons acteurs de notre avenir face aux changements qui sont en cours et qui s'accélèrent. Et à ce sujet, j'en profite, puisque c'est récent, on a eu le retour lundi, nous sommes une nouvelle fois, je vais dire, lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour un ami qui s'appelle ADAPT TACCT. Donc c'est une démarche qui va nous permettre d'analyser collectivement nos vulnérabilités face au changement climatique, de hiérarchiser les conséquences à court, moyen et long terme, et de déterminer puis prioriser des actions opérationnelles correctives ou structurelles qui permettront à notre territoire d'être plus robuste et agile. Voilà. Donc je tiens à remercier Juliette et Louise pour leur implication. Quand j'entends déjà tout ce qu'elles ont préparé, ce qu'elles ont lancé, je suis optimiste. Je pense qu'on aura des avancées concrètes sur le sujet. Il en va de la santé de nos enfants et même de leurs parents, de l'activité des producteurs locaux, des circuits courts et du bilan carbone. Voilà. Donc je suis très optimiste et je pense qu'on a deux collaboratrices qui sont très mobilisées, très militantes sur le sujet. Donc je pense qu'on va sortir de beaux dossiers. Merci.
Comme tu l'as dit, oui, l'objectif du PAT, donc le projet alimentaire territorial, c'est de mobiliser la population, les acteurs et actrices du territoire qui sont impliqués sur les thématiques de l'agriculture et l'alimentation durable. Donc voilà, c'est vraiment cette question de mobiliser et de se concerter avec eux pour créer une stratégie à l'échelle du territoire du Sud-Lozère, quelque chose d'homogène et sur tout le territoire. Et donc, c'est aussi ce à quoi va participer cette émission Chaud Patate. Voilà, c'est l'idée de mettre en lumière toutes ces initiatives-là au fil des mois, d'aller sur le terrain, voilà, en reportage, comme ça a été fait à la cantine de Florac, et d'avoir, voilà, d'aborder des questions sur la cuisine locale, de terroir, l'alimentation et l'agriculture durable, et aussi un petit peu de jardinage pour les prochaines émissions. Merci d'avoir été présent pour cette première émission. Et pour la diffusion, ce sera le mardi à 11h et le vendredi à 8h30, une semaine sur deux. Et donc on se retrouve très bientôt.
À table !
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
Un mardi sur deux à 11h.
Un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Bartas.
107 FM. À table.